t'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci d'écouter Radio Okapi et d'avoir choisi Parole aux auditeurs pour vous tenir compagnie pendant près de 60 minutes. Ce mercredi 3 novembre 2010, nous poursuivons avec la série des émissions consacrées à la relance des activités des entreprises du portefeuille de l'État. Après la minière d'Ibakwanga et la Société nationale de chemin de fer du Congo, nous nous penchons ces jours avec vous sur l'Office national des transports ONATRA. Cette entreprise du portefeuille de l'État connaît, à l'instar des autres, des difficultés de fonctionnement, que ce soit dans les secteurs des transports fluviaux et les secteurs des ports et fluviaux et lacustres. Telle est la situation des infrastructures de cette entreprise dans la province de l'Équateur, où la ministre de la fonction publique et des transports du gouvernement provincial de cette province a fait un constat la semaine passée sur le délabrement des infrastructures de l'entreprise qui ne permet pas à l'ONATRA de jouer son rôle d'épine dorsale économique en RTC. Dans le cadre de la relance des activités de l'ONATRA et par le biais des COPIREP, comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques, le gouvernement de la RDC avait signé un contrat d'assistance et de gestion le 31 mai 2008 avec la firme espagnole Progoza pour la stabilisation de l'ONATRA. Il s'avère qu'au terme de 2 ans de travail, le gouvernement n'a pas levé l'option de poursuivre avec Progoza et actuellement, la gestion est assurée par les comités de gestion congolais. L'entreprise publique à caractère industriel et commercial a été créée en 1935 sous le nom de l'Office des transports coloniaux au Traco. Elle est devenue Office des transports du Congo avec l'indépendance et afin ONATRA en 1991. La libéralisation du transport fluvial suite à une décision du comité exécutif en 77 lui retire les monopoles et autorise toute personne physique ou morale à devenir armateur. Nous allons en parler avec vous parce qu'il faut des propositions que vous avez pour relancer les activités de l'ONATRA et nous aurons au téléphone différents intervenants dans cette émission comme Monsieur Michel Somoué, analyste économique. Cynthia Bachizi est à la réalisation de cette émission sous la supervision de Nicole Ngaka et Jean-Claude Nchiala est à la technique. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Vous êtes très nombreux à vouloir réagir dans cette émission et surtout vous tous que vous retrouvez dans les provinces où l'ONATRA, les activités de l'ONATRA s'y déroulent. Vous êtes dans les Bandundu, vous êtes au Kasaï occidental, vous êtes dans la province orientale ici à Kinshasa, au Bas-Congo, dans la province de l'Équateur. Soyez nombreux à nous appeler au 081-890-6315 et adressez-nous un mail si vous avez besoin d'intervenir à pa@radiookapi.net. Nous avons en ligne Adrien qui est un ressortissant d'Ilebo, parce qu'Ilebo aussi est concerné par les travaux de l'ONATRA. Adrien, on va vous donner la parole, mais permettons d'abord à M. Michel Somoué, vous êtes analyste économique, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous avons été avec vous dans plusieurs émissions consacrées à la relance des activités des entreprises du portefeuille de l'État. On a parlé de la SNCC, on a parlé de l'AMIBA et aujourd'hui nous parlons de l'ONATRA. Avant d'aller à ce qui touche la relance des activités de l'ONATRA, d'une manière brève, comment en est-on arrivé aujourd'hui à cette situation qui connaît l'ONATRA aujourd'hui, presque, on peut dire, beaucoup de difficultés de fonctionnement?
Oui, mais c'est essentiellement un problème de gestion qui a été concrétisé par l'absence d'une vision nécessaire de restructuration de la date de l'ONATRA pour l'adapter aux réalités mouvantes de la nation et de l'économie nationale. C'est ce qui fait que, à un moment donné, l'ONATRA s'est trouvé, par rapport à cette activité, une institution pratiquement caduque, vieille, avec un outil de travail vétuste, et une gestion du personnel tout à fait inadéquate et s'est trouvé dans l'incapacité de répondre aux défis du modernisme qui était indispensable pendant que tout se meut vers l'avant, les technologies nouvelles, etc. L'ONATRA est resté pratiquement archaïque dans sa vision.
Mmh. Et monsieur, Voilà, monsieur Michel, peut-on dire que le problème est à quel niveau? C'est au niveau de la politique, au niveau du gouvernement pour la définition, la politique définie pour la gestion de cette entreprise, ou le problème de mandateurs qui ont pu être nommés, qui ont pu gérer l'entreprise. À quel niveau se trouve le problème? Au niveau du gouvernement avec la politique de la gestion des entreprises, ou au niveau des mandataires qui ont occupé différents postes le long de l'histoire de cette entreprise?
Je crois qu'au départ, le problème ne devrait pas être vu par rapport au gouvernement, parce que la politique gouvernementale ne peut pas s'écarter des problèmes concrets que se posent ceux qui sont sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire l'ONATRA. C'est l'ONATRA qui devrait identifier ces problèmes, les concevoir sous forme d'un cahier de charges et soumettre ce cahier de charges au gouvernement qui enfin maintenant a une politique de transport, très petit de transport. À partir du moment où la vision des gestionnaires au niveau de l'ONATRA a été elle-même lacunaire, parce que souvent, la nomination des hommes à la tête de notre entreprise publique relève plus d'un clientélisme que d'une nécessité de changer, d'impulser l'activité de l'économie, d'impulser l'activité de l'entreprise. Alors, ça fait que il y a eu une nécessité au niveau de l'analyse des problèmes au sein de l'entreprise qui fait que, bon, la politique du gouvernement a été elle-même aussi inutile. Voilà.
Voilà. Merci pour cette entrée en matière. On vous garde en ligne parce qu'il y a Adrien qui nous appelle de Kananga, mais je crois qu'il a vécu longtemps à Ilebo. Il y a aussi Louis-Serge qui nous appelle d'Ekukuit, à qui nous allons donner la parole tout de suite pour écouter leurs propositions.
Parole aux auditeurs.
Adrien, ça fait quelques temps, on vous a eu dans parole aux auditeurs à partir d'Ilebo. Vous êtes bien ressortissant d'Ilebo, c'est un territoire au Kasaï occidental. Et Ilebo est concerné aussi par l'ONATRA. Et si on doit vous demander, Adrien, de proposer par rapport à ce qui s'est fait à Ilebo, ce que vous avez vu dans les installations, tout ce qu'il y a comme problème là-bas, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour relancer les activités de l'ONATRA à Ilebo? On vous écoute, Adrien.
Oui, merci Pierrot et la Menji, et je salue aussi Monsieur Soumouin que je connais particulièrement bien. Je pense que avant de proposer d'abord quelque chose, aujourd'hui si vous allez à l'hôpital, on va d'abord diagnostiquer la maladie. Vous l'avez si bien dit, le problème qui ronge presque toutes les entreprises publiques de l'État, c'est quoi? C'est la gestion. Il y a aussi la politique définie pour la gestion de ces entreprises-là. À mon humble avis, c'est une politique déjà archaïque. On devrait adapter à partir d'aujourd'hui avec ce qui se fait dans d'autres pays. Donc, voir comment est-ce que certaines entreprises de l'État fonctionnent. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés de transport, par exemple, les maritimes, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment en pêle-mêle. Par exemple, en Tanzanie, en Zambie, voire même en Europe. Je pense, lorsque vous prenez d'abord les problèmes de l'ONATRA, il se pose un sérieux problème, je vous assure, au niveau de la gestion. Parce que nous voyons que l'État a sa main mise vraiment dans cette gestion-là. Et c'est pour cela que nous nous disons, si l'État réellement prouve cet intérêt-là de faire relancer ces entreprises, que l'État commence d'abord à démissionner d'abord au niveau, donc, de se retirer de ces entreprises-là. C'est comme qui dirait, donc, comme proposition, je pense qu'il faut privatiser, je reviens sur ce terme-là, il faut privatiser toujours les entreprises de l'État importantes, entre autres la SNCC, l'ONATRA. Donc c'est très important. Lorsqu'on aura privatisé ces entreprises-là, vous verrez que le particulier qui pourra signer des contrats avec le gouvernement congolais, il ne pourra pas gérer comme l'État est en train de le faire. Qu'est-ce que l'État s'est dit? Il dit non, en tout cas, je peux faire n'importe quoi. Je suis l'État, je suis au-dessus de la mêlée. Personne ne pourra m'inquiéter. Mais alors, un particulier, vous verrez que non, il va quand même, il aura un peu ce souci-là, il aura cette peur-là de dire non, je ne peux pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, l'État dit le botero, laisse à désirer, parce que vous devez savoir que le train on a train qui existe aujourd'hui à Ilebo n'appartient plus à la société. Donc ça a été distribué aux agents qui réclamaient leurs frais, parce qu'ils ont totalisé dessus beaucoup de mois d'arriéré. Et donc c'est un peu dommage. L'ONATRA prouve des difficultés pour fonctionner.
Merci Adrien. Oui, Adrien, si on vous résume pour permettre aux autres auditeurs votre souci à vous, vous dites qu'il faut, pour que ça marche, il faut la privatisation de entreprises comme l'ONATRA, qu'elles soient n'est privatisé, mais vous proposez aussi en fait, vous demandez que l'État ne puisse pas avoir la même mise dans la gestion, c'est-à-dire que laisser les comités de gestion fonctionner, travailler librement. Sinon, quand l'État a la même mise et le contrôle dans la gestion de l'entreprise, cela ne permet pas à l'entreprise d'avancer. Merci, Adrien. Vous nous appelez de Kananga, mais on précise bien que vous êtes ressortissant d'Ilebo au Kassa Occidental. À Kikwit, c'est Louis-Serge qui est en ligne. Bonjour. Louis-Serge, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pensez, comme Adrien de Kananga, qu'il faudrait la privatisation de l'ONATRA pour permettre à cette entreprise de relancer, de se retrouver et de produire encore comme elle l'a fait dans le temps?
Dans la mesure où il y a un manque de volonté politique dans les chefs de nos dirigeants politiques, je crois que c'est une des solutions. Une des solutions, c'est de privatiser. Privatiser pourquoi? Parce que je vous parle en tant qu'ancien de la boîte. Je suis un ancien de la boîte, je suis celui qui est allé remplacer le blanc à Stanleyville, à Kisangani. Le lendemain du 30 juin. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut moderniser la flotte. Et cela ne peut se faire que lorsqu'il y a privatisation. La flotte, rétablir les lignes qui existaient sur les 12 711 kilomètres qu'exploitait l'Otraco. L'Otraco, à ce moment-là, l'Onatra. Et il faut réhabiliter les chantiers navals qui est à Ndolo.
Ici à Kinshasa, oui.
Ici à Kinshasa. Vous voyez, le mal qu'on avait fait, c'est justement celui d'avoir vendu les camps, les anciens camps de l'Otraco, Olsen à Kinshasa et Sito. Vous voyez. Sinon, c'est là, par exemple, maintenant, ce qu'on aurait pu faire, c'est de faire louer pour que le recette revienne à l'Otraco pour permettre à l'Onatra plutôt de fonctionner. C'est une des grandes sociétés à travers l'Afrique. Vous voyez la fierté de par les buildings qui trônent le boulevard du 30 juin et toutes les maisons parsemées par-ci, par-là, à travers la ville de Kinshasa.
Voilà, Louis-Serge, en vous écoutant, vous dites bien que vous êtes un ancien de la boîte, vous avez travaillé du temps de l'Otraco, bien sûr, vous avez remplacé les Blancs à Stanleyville, actuelle Kisangani, au lendemain du 30 juin. Quand vous regardez la gestion pendant la période où vous étiez dans la boîte, est-ce qu'il y avait l'interférence du pouvoir public, comme le déplore Adrien Dilebo, qui pense qu'il y a tellement l'interférence du pouvoir public dans la gestion de l'entreprise qui ne peut pas permettre au comité de gestion d'avancer? Est-ce que c'est de cette manière que cela se faisait pendant les temps que vous avez géré?
Non,
quand même.
Pas du tout, sinon ce building qui fait la fierté ne serait pas construit. L'Otraco aidait plutôt l'État pour ses fonctionnements, pour tourner. Il y avait bien sûr l'œil sur la société, la politique, mais la mainmise comme aujourd'hui, je crois qu'il y a une très très mauvaise gestion qui fait qu'on se trouve dans cette situation-là. Regardez par exemple, je suis ici à Kikwit, le port, il est là, et les dépôts sont là, la grue est là, qui ne tourne pas depuis des années. Ça risque même un jour de tomber dans l'eau. Mais aucune mesure n'est prise, par exemple, pour dire le bateau des privés qui monte, au lieu de charger ou de décharger dans les ports privés, il monte jusqu'au port Onatra, on décharge, on charge, mais on se partage les frais. L'Onatra retire ce qu'il peut retirer pour le fonctionnement de la boîte ou pour renouveler les dépôts, le charroi, par exemple, pour le chargement et déchargement.
Voilà. En tout cas, il y a autant de mesures qu'il faudrait prendre, Louis-Serge. Merci, en tout cas, de votre témoignage. On sent bien que vous maîtrisez bien ce qui se passait à l'Onatra. Vous avez travaillé du temps de l'Otraco. Vous êtes à Kikwit. Merci pour toutes les propositions. On va aussi demander à notre invité qui pourra faire un commentaire là-dessus. Mais il est temps de revenir ici à Kinshasa, où se trouve Dieudonné. Dieudonné, vous êtes en ligne. Bonjour.
Oui, merci, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Je suis opérateur syndical. Mon syndicat est élu à l'ONATRA. Je salue les interventions de tous les compatriotes. Et l'organisation de cette émission qui doit être, comment dirais-je, répétée et même continuée parce que l'ONATRA reste la porte d'entrée principale de l'économie de notre pays. Et le problème qui se pose à l'ONATRA doit être pris avec tout le sérieux. Michel est intervenu sur moi pour mettre en évidence la responsabilité de l'État. C'est une vérité. L'État procède par immixtion dans la gestion de l'ONATRA, quand bien même le texte que lui-même a révisité ne lui permette plus de s'immixer dans cette gestion. L'État, vous l'avez dit, a lancé l'entreprise sur un projet de stabilisation. À ce jour, ce projet n'est pas évalué. Tout le monde sait que ça a été un échec patent. Cette entreprise qui a un outil de travail obsolète, comme ça a été dit, et celle qui a supporté ce projet de stabilisation sur environ ordre de 15 millions de dollars. Nous nous disons qu'il est possible de faire mieux malgré l'obsolescence de l'outil de travail, d'améliorer et ensuite entrevoir la possibilité de privatiser, de réformer, de procéder par des contrats, etc., etc.
Voilà,
comme un de compatriotes disait, l'économie est en mouvante.
Dieudonné, permettez-moi de...
Dieudonné, je termine, je ne vais pas monopoliser la parole.
Non, je voudrais juste vous relancer. Vous parlez du projet de stabilisation. Est-ce que vous faites allusion au contrat de
gestion? Contrat de Progoza.
Voilà, Progoza. C'est ce contrat que vous dites qu'il a été un échec, ça n'a pas produit de bons fruits et qu'il faut passer à faire autre chose, c'est ça?
Oui, mais je relève plutôt que cette entreprise... qui est taxée de canards boiteux, etc., c'est elle qui a soutenu toutes les dépenses liées à ce projet. Et l'État qui voulait bien que ça se redresse ne s'est même pas donné la peine d'évaluer et d'établir les responsabilités, pourquoi ça n'a pas marché, et voir dans, par la suite ce qui doit être fait.
Voilà. Et aujourd'hui, il y a la SNCC qui a bénéficié quand même d'un plan de stabilisation avec les fonds de la Banque mondiale et la RVA avec les fonds de la BAD. Mais au niveau de l'ONATRA, à quel niveau se trouve le problème pour qu'enfin l'ONATRA aussi bénéficie d'un tel plan? Il faut quand même y mettre des ressources pour aider quand même la société à se relancer, monsieur Dieudonné.
Mais voilà pourquoi, en 2008, notre syndicat a saisi les instances de la République, demandant à l'État de donner à l'ONATRA sur sa dette qui s'élève à 400 millions de dollars, de donner une avance de 100 millions. Ceci, c'est pour dire que nous sommes d'accord avec le schéma des capitaux frais pour relancer l'entreprise. Mais cela doit se reposer sur un plan à produire par cette entreprise,
voilà.
Et lequel plan viendra sera exécuté pour épuiser le financement qui sera donné.
Merci.
Mais il y a aussi, en tant que syndicaliste, tout doit être mis en œuvre pour la sécurisation des agents en attaque qui ont presté, qui ont épuisé toute leur vie dans cette entreprise.
Merci.
Et s'ils doivent partir, ou je ne sais pas moi, dans l'un ou l'autre cas, qu'ils sortent honorablement comme des citoyens congolais.
Merci
de donner. De leurs ancêtres et qui doivent être protégés par le gouvernement de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Merci beaucoup, monsieur Dieudonné, pour ces témoignages et les éléments apportés dans cette émission. Vous êtes syndicaliste à l'ONATRA. On termine avec Jean-Luc de Matadi avant de remettre la parole à Michel Somoy. Jean-Luc, vous êtes en ligne. Bonjour. Jean-Luc, il serait mieux d'arrêter votre poste récepteur, hein, et suivre l'émission à travers votre téléphone portable. Ça pourrait aller sans beaucoup de difficultés. Vous êtes maintenant en ligne, Jean-Luc. Bonjour. Le temps que la réalisation puisse coacher, comme on l'a dit,
oui.
Jean-Luc. Jean-Luc, ça va maintenant? On peut aller de l'avant? Non, ça ne marche pas avec sa ligne. Il est distrait apparemment. On pourra aller récupérer le temps de remettre la parole à notre invité, monsieur Michel Somoy, après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Michel Sommeux, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Il y a quand même des éléments très importants qui ont été relevés. Il y a la gestion, comme l'a dit Adrien, qui ne s'adapte pas aux réalités actuellement, mais qui propose la privatisation. Il y a Louis-Serge, qui est un ancien, vous l'avez suivi même par la voix. Il a travaillé depuis les temps de l'Otraco. Voilà autant de propositions. Et il y a aussi Dieudonné, qui est syndicaliste, hein, mais on fustige, comme on l'a dit, l'immixion de l'État dans la gestion. Mais aujourd'hui, à l'étape où nous sommes arrivés, on a vu le contrat de stabilisation avec Progoza, on a pensé que ça pouvait aller, les uns disent que le projet n'a pas pu marcher, les copyrefs pensaient qu'à travers la gestion mixte, une entreprise étrangère pouvait aider l'entreprise à s'échapper à la dépression et améliorer quand même sa production. Mais enfin, on a vu que tout cela a pataugé. Mais eu égard à toutes les propositions des auditeurs, qu'est-ce que vous pouvez y ajouter, M. Michel Sommeux?
Oui, la première chose, c'est que je pense que partir du problème de l'immixtion de l'État pour déboucher sur celui de la privatisation comme étant une solution, je ne pense pas que ce soit une bonne vision des choses. Parce que si l'État se mêle trop de la gestion de la trace, ce qui est très mauvais, ce qui est vrai aussi, absolument très mauvais, la solution n'est pas de privatiser. Parce qu'on ne privatise pas une économie dans un état faible. C'est possible. Prigogine disait que la puissance va en raison inverse de la connaissance. Donc on ne peut pas se permettre dans un état qui est trop faible, comme le nôtre, de dire ok, on abandonne l'économie au secteur privé. Ça serait consacrer le jeu des renards libres dans un poulailler libre. Regardez du côté du pétrolier producteur. Il dit, c'est pas l'État congolais qui produit, c'est pas une entreprise publique qui produit le pétrole au Congo. C'est toutes des entreprises privées qui produisent le pétrole au Congo. Mais comment vous pouvez comprendre qu'un pays dont la dette pétrolière est pratiquement la même que celle de l'Angola, que celle du Tchad et d'autres pays qui produisent le pétrole autour de nous, que le Congo ait une production journalière de 23 000 barils, là où les autres comptent 2 millions de barils? Ça veut dire que le pétrolier producteur, il déclare ce qu'il veut à l'État, parce que c'est un État aveugle, un État faible, qui n'est pas capable de contrôler sa propre production, qui n'est pas capable de contrôler l'activité du secteur privé, surtout lorsqu'il s'agit d'un privé puissant. Lorsqu'on dit qu'il faut que l'État faut privatiser, nous savons tous que le Congolais en général est pauvre. Ça veut dire qu'il faut encore de nouveau laisser l'activité ou l'économie nationale dans les mains des multinationales étrangères qui sont très puissantes. Nous n'avons pas encore installé dans notre pays un cadre de privatisation qui consiste en un marché financier clair où nous avons la capacité de former des entreprises par action qui pourraient déboucher sur l'organisation des bourses des valeurs qui constitue le cadre de la privatisation des entreprises, un cadre sans, comment on dit, sans suspicion de privatisation d'entreprises. Aujourd'hui, ou bien ce sont les mêmes prédateurs qui sont en train de gérer les structures de l'État qui vont s'accaparer d'entreprises de cette fois-ci dites privées, dont on connaît la capacité de gestion, ou bien ce sont les étrangers qui vont s'accaparer et dans tous les cas, le Congolais ne trouvera pas son compte. Ça, c'est ma vision par rapport au problème de la privatisation. Je ne dis pas que la privatisation est mauvaise. Je dis qu'on ne peut pas privatiser dans une économie dont l'État est encore très faible. Et très corrompu. Ça serait très dangereux. Ça serait consacré, je répète, le jeu de renard libre dans un poulailler libre. Je suis très touché par l'analyse qui a été faite par Louis Serge, qui est ancien quelqu'un qui a travaillé vraiment dans l'entreprise et qui connaît bien les problèmes de l'ONATRA. Et c'est vrai, le problème qu'il a fait de soulever. Ça fait correct. Vous voyez, l'ONATRA avait une autre source de revenus pour assurer un certain nombre de dépenses nécessaires au fonctionnement régulier de l'entreprise. Notamment, les camps des travailleurs pouvaient réduire la charge des charges de l'ONATRA. Ça pouvait réduire les dépenses et donc entretenir les agents quand même dans un climat de vie plus ou moins acceptable. Lorsque vous vendez ce camp, alors que vous n'êtes pas capable de payer correctement les travailleurs, vous les exposez à une vie de vagabondage. Vous les exposez à pratiquement, ça devient des SDF, des gens qui souffrent davantage et la motivation en pâtit inévitablement. Je crois que cette vision qui consiste, comme j'ai lu du côté de la Banque centrale, à dire il faut qu'on concentre les activités de l'entreprise sur le seul objet social pour lequel l'entreprise a été créée est une vision, encore une fois, à angle de vue très très réduit.
Voilà.
Je pense qu'il faut comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons en tenant en compte le fait que l'épargne de notre pays est trop faible.
Voilà. Monsieur Michel Somoué, quand on regarde les soucis de COPIREP, le comité des pilotages pour la réforme des entreprises publiques qui avait signé par son biais, bien sûr, le contrat avec Progoza en 2008, il pense que si au niveau du comité des gestions, qu'on a quand même l'expertise extérieure, ça permet de protéger l'entreprise aux pressions du pouvoir, et qu'aujourd'hui qui l'entreprise entre les mains d'un comité des gestions contrôlé à 100% comme de tout le temps par le fils du pays, comme on aime bien l'appeler, cela n'épargne pas l'entreprise à la résistance, bien sûr. Est-ce que le problème aujourd'hui est au niveau d'une gestion mixte avec une entreprise d'expertise extérieure? Est-ce que le problème, c'est l'assainissement même de la gestion elle-même, qu'elle soit mixte avec une entreprise étrangère ou qu'elle soit assurée par les Congolais eux-mêmes?
Non, je crois qu'il y a une certaine... C'est vrai qu'on parle de l'extraversion de l'économie congolaise, mais il y a aussi surtout l'extraversion de la mentalité de ceux qui ont le pouvoir de décider. Il faudrait qu'on comprenne que la plupart des Congolais, des hauts cadres congolais qui sont dans ce pays, ont été formés à l'extérieur, à l'étranger.
Voilà.
C'est-à-dire que ceux que vous importez de l'étranger pour venir gérer nos entreprises ici n'ont rien de plus que ceux que vous avez sur le plan local. Ça, c'est important de savoir. Le problème n'est pas celui d'un individu. Le problème concerne le système dans lequel nous évoluons. Nous avons un système complexé où l'on croit que la peau blanche a l'expertise, la mentalité, la sagesse, l'honnêteté, la moralité et tout ce qu'on veut. Et on n'a pas confiance dans son frère qui a pourtant parfois plus de connaissances et plus d'expérience et d'expertise que l'étranger qui vient. C'est un complexe d'infériorité, malheureusement, qui est lié à notre esprit de colonisé qui ne finit pas. Mais qui ne finit pas surtout dans la tête de ceux qui nous dirigent. C'est important. Mais moi, je crois que le Congolais a la capacité de gérer son entreprise si on le met dans des conditions de travail adéquates.
Je vais donner
un exemple sans m'attarder sur là-dessus. Regardez, on prend un entraîneur étranger. Dès qu'il vient passer pour l'équipe de football national, dès qu'il vient, on lui bombarde d'un salaire de 50 000 $ par mois. Mais si on voulait de prendre un Congolais qui a fait des merveilles en Europe, en France, en Belgique, dans leur pays, qui est connu, qui a fait un nom dans ce pays-là, on va lui donner la moitié du salaire qu'on donne à un entraîneur étranger. Pourquoi? Parce qu'on est colonisé, parce qu'on est esclave d'une façon ou d'une autre. C'est ça le problème. Mais mettez le Congolais dans les meilleures conditions de travail, ne le soumettez pas à la pression de voleurs qui le font nommer, et donnez-lui tous les pouvoirs de gestion, il va vous gérer les entreprises de façon correcte.
Sans problème, merci.
Je crois qu'il y en a qui sont vraiment capables de gérer la nation, capables de gérer nos entreprises publiques, de gérer nos gouvernements de façon sérieuse et crédible. Mais on les met dans un système d'insécurité. C'est ça le système que nous avons. Ou celui qui entre pour gérer ne connaît pas combien de jours il va faire la tête de l'entreprise. Et vite fait, on le soumet à la pression pour dire, n'oubliez pas que moi je ne vous ai pas venir là-bas, je veux avoir le retour des retombées de votre présence là-bas. Alors monsieur a peur de se faire virer le lendemain, et il sombre dans le vol, même s'il était le plus sain du monde.
Voilà, merci.
Dans le vol parce qu'il veut sauver, il a honte de partir le lendemain, parce que le motif c'est un virus grave, on écrira n'importe quoi, on dira qu'il a été chassé pour incompétence, alors qu'en réalité, il a refusé de payer la corruption ou de s'entendre dans le système de corruption.
Voilà, merci.
Il faut laisser le Congolais dans un système, il faut moraliser la vie publique au Congo.
Voilà, monsieur Michel Somou, vous garde en ligne. Jean-Luc, maintenant, est en ligne, il est à Matadi. Il y a David qui nous appelle de Kinshasa, il est syndicaliste à l'ONATRA. Il y a beaucoup d'auditeurs qui sont sur la ligne en train d'appeler, et surtout ceux qui sont concernés directement par le problème de l'ONATRA, comme les syndicalistes qui nous ont appelés, qui continuent à appeler, ainsi que les autres. C'est au 081-890-6315. On pourra vous accorder la possibilité d'intervenir aussi longtemps que la ligne peut être disponible. Mais Jean-Luc et David, on vous donne la parole tout juste après.
Parole aux auditeurs.
Jean-Luc, vous êtes à Matadi, c'est dans la province de Bakongo. Bonjour.
Oui, je vous remercie, messieurs les journalistes. Bonjour, messieurs les journalistes. Et je profite aussi pour saluer tous les auditeurs de l'OCAPI à travers le monde. Oui, je voulais abonder dans le même sens que mes prédécesseurs, où je voulais plus souvent parler de partenariat ou de l'accord de partenariat que l'État envisage de faire avec la firme espagnole, où il y aura une gestion qui sera partagée et par la société espagnole et le Congo. Nous voudrions bien que le gouvernement congolais laisse la libre liberté au comité de gestion qui sera mis en place, ou si possible, le gouvernement peut choisir un ADG qui va être à la tête du comité de gestion, qui sera dirigé par au moins trois directeurs qui soient dans certains secteurs, à savoir un directeur administratif et financier, un directeur administratif et un directeur financier plutôt, pour pouvoir abonder dans ce sens-là, pour que la gestion soit aussi transparente. Parce que nous savons, avec le comité de gestion qui a été avant, qui n'a pas su faire grand-chose, qui a laissé tout l'État faire tout ce qu'il veut dans la gestion de l'office, qui a fait que l'office qui avait ses besoins ne pouvait pas le faire parce que le gouvernement avait la mainmise, qui était souvent obligé de donner beaucoup de fonds à l'État au lieu de se servir de ses moyens pour faire la politique de ses moyens. Ce que nous voulons est que l'État puisse mettre à la tête, dans le cadre de partenariat, que l'État mette à la tête un directeur administratif qui soit les Espagnols, un directeur administratif et financier qui soit un Espagnol, un directeur administratif technique qui soit aussi des étrangers, et que la gestion soit souvent laissée à la main des Congolais. Pour dire que qu'il y ait le membre du comité de gestion qui est un ADG qui soit congolais, et les trois autres directeurs, entre autres le directeur administratif et financier, un directeur administratif technique, qui soit des expatriés, pour pouvoir servir au développement des outils et de la gestion de l'office.
Merci Jean-Luc. Votre souci, c'est vous voulez un partenariat, mais qui permet d'avoir des postes de responsabilité partagés entre une firme étrangère, par exemple, qui est le numéro 1. Vous proposez un ADG, administrateur, directeur général, qui est congolais, mais qui est secondé des trois autres directeurs qui peuvent appartenir à une firme étrangère. Et tout cela, vous pensez que ça peut amener la transparence dans la gestion de l'entreprise. Merci Jean-Luc, vous êtes à Matadi, où les auditeurs des Radio Capi vous écoutent sur 102.0 MHz. On rentre ici à Kinshasa. David, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Nous parlons de l'ONATRA, l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et puis vous êtes syndicaliste. Aujourd'hui, d'aucuns pensent qu'il faudrait que l'ONATRA aussi puisse bénéficier du plan de stabilisation comme les autres entreprises, par exemple avec des ressources fraîches qui viennent de l'extérieur pour y mettre. Mais au niveau de l'entreprise, est-ce que vous pensez que le fait d'y mettre autant d'argent, que ça soit l'origine, ça peut venir de la Banque mondiale, de la BAT, ça peut même venir du gouvernement, est-ce que cela peut aider aujourd'hui à relancer et carrément l'ONATRA, David?
Merci beaucoup pour la question. Le problème d'argent, pour que ça vienne de la Banque mondiale ou des organismes internationaux, c'est pas mal. C'est pas mal, mais le problème sur lequel, c'est le problème de gestion. La première chose, je remercie d'abord l'État congolais pour avoir penser à la restructuration de l'entreprise, parce que l'entreprise avait une structure éléphantesque. C'est pourquoi il a résolu à ce qu'on puisse restructurer l'entreprise. Mais quant à la mise à la tête de l'entreprise des expatriés, je ne partage pas cet avis. C'est comme qui dirait que nous, dans notre pays, nous n'avons pas de cadre compétent. Le problème est que nous sommes dans un système politique très mauvais, où lorsqu'il faut nommer les mandataires, les autorités politiques s'arrangent à nommer leurs frères, leurs protégés, et lesquels protégés, souvent, ils sont là, ils font l'opération aller-retour. C'est ce que nous n'apprécions pas. Alors, nous voudrions, pour résoudre ce problème, nous voudrions qu'on arrive à nommer des bons dirigeants, dans les dirigeants qui sont compétents et crédibles. Qu'on arrive à équiper l'office en outils de travail. Je vois, par exemple, au niveau du chemin de fer. Les chemins de fer qu'on doit réhabiliter, en même temps, on doit acheter des locomotives. Au niveau de la flotte, on doit moderniser la flotte, c'est-à-dire refaire les bateaux. Merci beaucoup, parce que l'actuel ADG intérimaire a essayé de réhabiliter certains bateaux, mais il manque des barges. On doit acheter des barges. Et enfin, on doit mettre fin, comme on dit le prédécesseur, à l'immixtion de l'État. l'émission de l'État dans la gestion de l'entreprise. Et aussi, l'État doit beaucoup d'argent à l'ONATRA. L'État doit payer ses dettes pour permettre à ce que l'ONATRA puisse fonctionner. Si l'État payait ses dettes, nous n'aurons même pas besoin de cet argent des étrangers que nous sommes en train d'attendre de la Banque mondiale. Mmh. Et enfin, il y a le problème de la gestion des ressources humaines. Mais que les journalistes, je vous dis actuellement, par exemple, il y a des gens qui sont sortis en pension depuis 2005, qui jusqu'à ces jours, étant sortis en pension, n'ont pas encore touché leur solde. Mmh. Mais on continue à les payer comme si c'était des agents qui sont encore en fonction pendant qu'il y a déjà leur remplaçant. Donc, vous voyez, sur un poste, on est en train de payer et l'agent qui est sorti en pension et en
même l'agent qui est au service.
Remplacé. Mmh. Donc, cette façon de faire ne peut pas permettre à ce que l'entreprise puisse bien évoluer. Voilà, monsieur le journaliste, mon modeste contribution.
Merci beaucoup, David. Vous nous appelez de Kinshasa où les auditeurs nous suivent sur 103.5 MHz. Vous êtes syndicaliste à l'Office national de transport. Vous avez proposé assez des choses, mais vous insistez aussi sur la gestion, la réhabilitation de l'outil de production et aussi une gestion, une meilleure gestion de ressources humaines pour permettre à ce que l'entreprise puisse aller de l'avant. Nous allons terminer avec Jean Dekikuit avant de redonner la parole à Michel Soumoué. Jean, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Voilà.
C'est Jacques.
Ah, c'est Jacques. Vous êtes à Kikuit dans le Bandundu. Il y a par exemple David qui vient de le dire. Ça a été dit aussi par Dédonné, les deux syndicalistes au niveau de l'ONATRA, qui pensent que l'État doit avoir quand même assez d'argent à l'entreprise. C'est comme à la SNCC, c'est comme à la GECAMIN et partout ailleurs. Il doit plus ou moins 400 millions de dollars à l'entreprise, ce qui peut permettre à ce que l'entreprise puisse aller de l'avant. Mais si jamais on peut restructurer l'entreprise et mettre assez une bonne gestion, et que d'un côté l'État ne puisse pas aussi mettre de l'ordre en ce qui concerne les interventions au niveau de l'office, est-ce que vous pensez que cela peut aider à avancer ou enfin on va avancer mais après demain on revient encore aux mêmes histoires, deux ans après on revient et les entreprises vont ainsi continuer dans cette dégringolade et cette évolution en dents de scie, Jean?
Bon, merci Lado Capi d'avance. Moi, je demanderai à l'État vraiment de mettre un moyen suffisant à l'entreprise. Pourquoi je dis ça? Je suis enseignant de technologie en deuxième, ici au lycée Kaguadikout. Mm-hmm. J'ai enseigné les moyens de transport. On a donné quatre moyens de transport maritime. J'ai demandé aux enfants de me donner un exemple d'une société de l'État congolais qui exerce les moyens, les transports fluviales. Mes élèves étaient vraiment incapables, mais les élèves. Les enfants qui résident de la ville, qui sont en ville, bon, vous voyez. C'est-à-dire, si l'entreprise où l'ONATRA était opérationnel, du coup, on citerait les noms de l'ONATRA. Et il y a une de leurs amis qui est venue de Kim, qui essayait quand même de répondre que, mais cet exemple est l'ONATRA. J'ai dit aux enfants que c'est l'ONATRA qui exerce ce transport-là. Mmh. Ils avaient demandé, mais l'ONATRA c'est quoi? L'ONATRA c'est quoi? Vous voyez, il y a aussi une répétition pédagogique de la part des élèves. Donc, il faut que l'État disponibilise les moyens pour que l'entreprise soit opérationnelle partout à travers la République.
Voilà, merci Jean. On va garder Lambert qui nous appelle de Kinshasa. Il est aussi délégué syndical à l'ONATRA. Ils sont nombreux en train de nous suivre. Je crois bien qu'ils réagissent par rapport à... Ils ont assez de préoccupations pour la relance de leur entreprise. Nous allons redonner rapidement la parole à Michel Soumoué. Et Lambert, on vous garde en ligne. Vous aurez la parole tout de suite après l'intervention de Michel Soumoué.
Parole aux auditeurs.
Michel Soumoué, vous avez suivi les uns et les autres, mais il y a un problème qui a été soulevé par Dédonné de Kinshasa et David aussi. Hein, tous les deux, ils sont de la société. Ils parlent de cette dette que l'État doit à l'entreprise. Et aujourd'hui, l'État qui doit à peu près, je vois ici les chiffres, je ne me trompe pas avec les chiffres, il parle de 400 millions de dollars. Au même moment, l'État cherche aussi un partenaire à l'extérieur, comme on a vu le 26 juin dernier. Le Premier ministre a souhaité, en attendant qu'on ait un partenaire qui peut apporter des ressources financière pour relancer l'entreprise, mais au même moment l'État doit autant à l'entreprise. Mais dans cet imbroglio, comment on peut clarifier la situation et permettre à l'entreprise d'aller de l'avant? Sinon on va retrouver un partenaire mais de moyens, l'État s'endette encore au sein de l'entreprise et enfin l'entreprise sera toujours aura toujours la corde au cou et ne pourra, je ne crois même pas qu'elle pourra se redresser dans ces conditions-là. Michel Soumoué, vous êtes en ligne?
Que un État défaillant vis-à-vis d'une entreprise, soit justement celui qui propose à cette entreprise de se restructurer, au lieu que ce soit l'État lui-même qui devrait penser à se restructurer pour être capable de devenir solvable et de devenir crédible vis-à-vis de cette entreprise. C'est vraiment extrêmement curieux. Et de quelle restructuration pouvez-vous attendre? Et quel genre de partenariat pensez-vous qui puisse se passer entre l'ONATRA et un partenaire choisi par le même État incapable de payer les Emirats? C'est un peu étrange. Moi, je pense qu'on est en train d'aller trop loin dans les analyses du Conseil d'entreprise publique pour rien. On est en train d'envisager avec le copyright qui est arrivé le premier avec un grand message de privatisation dans ce pays. Comme ils sortent le fuite en avant, le problème est clair. Le problème est au niveau de la défaillance de l'État, de l'insolvabilité de l'État, de l'irresponsabilité de l'État, de la délinquance de l'État. C'est ça le problème qu'il y a dans ce pays. C'est cette délinquance, cette défaillance, cette irresponsabilité de l'État qui est à la base de la faillite, de la faillite de nos entreprises. L'État doit de l'argent à la Régie des eaux, il ne paye pas. Il donne de l'argent à la SNL, il ne paye pas. Il donne de l'argent à la SNDC, il ne paye pas.
Voilà.
Les entreprises sont mises en difficulté, et ces difficultés sont principalement d'ordre financier, parce que le même État continue à pourchasser le peu de recettes que les entreprises mobilisent pour récompenser ceux qui font nommer les dirigeants d'entreprise. Ça, c'est un système pourri, c'est ce que j'appelle un système de corruption. Il faut moraliser la vie publique au Congo. Il faut que les hommes soient sélectionnés en fonction de leur qualité morale. C'est important. Et ça, c'est ce qui manque malheureusement dans ce pays, avec ce système de clientélisme, où les gens arrivent au pouvoir, non pas parce qu'ils ont un plan clair, ils ont une vision claire qu'ils veulent appliquer dans ce pays afin de sortir le Congo de la pauvreté. Mais on nomme les gens parce qu'il est ami d'eux, avec lui je peux bouffer facilement. Ça, c'est malheureux. Je crois que tout le contour qu'on est en train de faire ici peut trouver sa solution rien que dans l'organisation de l'État lui-même.
Voilà.
Voilà mon point de vue.
Voilà. Il y a encore un syndicaliste de l'ONATRA qui est en ligne, Lambert, qui nous appelle de Kinshasa, où il y est à Badolité. Lambert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez déjà eu l'occasion de suivre vos compères qui sont intervenus depuis le début de cette émission. Et les auditeurs, M. Michel Somoy, nous dégageons les pistes et des solutions à ces jours pour aider quand même l'entreprise, l'ONATRA, à sortir la tête de l'eau avec les difficultés si possible que l'entreprise connaît. Mais au niveau même de fonctionnement interne de l'entreprise, plusieurs fois, il y a des voix qui s'élèvent, que ce soit du côté de Copirep, que ce soit du côté du comité de gestion, des fois que le syndicaliste, vous-même, vous ne facilitez pas la tâche de comité de gestion, même de l'État, à pouvoir restructurer l'entreprise, que vous-même, les syndicalistes, avec autant de tiraillements internes, vous ne facilitez pas aussi la tâche aux uns et aux autres pour redresser l'entreprise. Quelle est votre part des responsabilités, vous, syndicalistes, dans la relance de l'entreprise de l'ONATRA?
Oui, merci pour la question. Je remercie tous ceux qui sont intervenus avant moi. Je commence par la question qui nous concerne, nous, syndicalistes. Nos tiraillements trouvent pour comme origine une certaine inféodation ou une manipulation de certains employeurs comme aussi de certains membres du gouvernement. Parce que nous vivons une situation telle que ceux qui veulent la mort de cette entreprise-là ne souhaiteraient pas que les syndicalistes parlent le même langage. Alors, ils jouent à la manipulation et malheureusement, nous sommes des humains. Il y a certains qui, peut-être, par manque de personnalité, cèdent à cette manipulation-là. Mais qu'à cela ne tienne, si l'on veut réellement résoudre les problèmes de cette entreprise ONATRA, l'approche est simple. Et M. Somoy, je le remercie beaucoup, il a réellement posé les vrais problèmes, comme d'autres camarades syndicalistes qui sont intervenus. La première des choses, c'est de comprendre d'abord quelle est la configuration de cette entreprise-là et quelles sont les missions lui assignées lorsque l'entreprise ONATRA avait été créée. Et au jour d'aujourd'hui, si nous comprenons qu'il y a une bonne partie de l'exploitation ONATRA, à l'occurrence les transports par voie d'eau, ou jusqu'à ces jours, en dépit de la libéralisation par le gouvernement depuis plusieurs années, aucun privé ne s'est hasardé à construire ne fût-ce qu'une unité en même d'évacuer ou de transporter les voyageurs, donc de passagers dans des conditions quand même acceptables. Personne n'a osé. C'est dire que cette charge de la mobilité des citoyens, comme aussi le mouvement des marchandises, c'est la responsabilité de l'État, là où les privés ne savent pas organiser ces modes de transport. Alors, si aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons aujourd'hui dans cette entreprise-là, si l'État se permettait d'aller jusqu'à privatiser l'ONATRA dans l'environnement actuel, où effectivement le pouvoir est encore faible, parce que la justice n'est pas encore manifeste dans notre pays. Ne nous gênons pas de reconnaître nos faiblesses. Nous vivons encore une situation où les privés imposent leur dictat. Alors, si dans cette situation ici, l'on privatise une entreprise comme l'ONATRA, il faudrait à continuer à accepter qu'il y ait des naufrages sur le Kassai comme sur le fleuve, parce que les embarcations ne répondent pas aux conditions normales pour transporter ces personnes.
Voilà.
Alors, ces modes de transport, il n'y a que l'ONATRA et il y a un mécanisme pour rééquilibrer un peu le charge, c'est-à-dire l'ONATRA est beaucoup plus productif du côté des ports maritimes, et si les chemins de fer étaient réellement bien tenus et s'il y avait une vision efficace des parts, ceux qui sont mandataires à l'ONATRA, les chemins de fer et les ports maritimes suppléraient au déficit d'exploitation enregistré des parts, la satisfaction à vocation sociale du côté fleuve et Kassai. Mais comme l'État semble se désengager, ces citoyens-là, qui va organiser leur mobilité de Bolobo jusqu'à Kisangani? Vous prenez de Kinshasa ou Kwamutu jusqu'à Ilebo. L'autre problème, l'approche telle que elle est aujourd'hui examinée, il y a le syndicaliste, certes, mais lorsque les COPIREP et le gouvernement, par les biais du ministère du portefeuille, avaient posé les problèmes pour la stabilisation de l'ONATRA et sa transformation. Pourquoi a-t-on toujours évité la participation des partenaires sociaux que sont les syndicats? Jusqu'à aujourd'hui, ça continue à poser problème.
Voilà.
Vous avez suivi, nous étions même indignés que le gouvernement puisse s'insurger contre une commission parlementaire simplement parce que les syndicalistes ont été invités.
Voilà.
Comme si pour qu'un syndicaliste passe poser les problèmes, qu'il faille les cutis du gouvernement. Non,
merci,
les
merci,
syndicats
Lambert,
ne sont pas sous tutelle du gouvernement. Ce sont des partenaires au gouvernement.
Voilà.
Donc, bref, c'est un problème de discipline d'abord dans les chefs des gouvernants qui doivent éviter des prélèvements de ponctions qui affaiblissent les entreprises publiques.
Merci beaucoup, Lambert. Merci beaucoup, Lambert. C'est très clair votre point de vue. Nous allons à Gbadolité où se trouve Willy. Vous êtes en ligne, Willy. Bonjour.
Bonjour.
Willy, vous avez suivi les uns et les autres. On a tendance peut-être à revenir sur les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. Il faut que l'État ne puisse pas s'immixer dans la gestion des entreprises. Il faut l'assainissement même du climat, de la moralisation même de la vie politique publique, comme l'a dit monsieur Michel Somoué, pour permettre à ce que nous on puisse aller de l'avant et aider l'ONATRA comme les autres entreprises. Vous êtes à Badolité, eu égard. Et au-delà de tout ce que les autres ont dit, Willy, qu'est-ce que vous proposez encore qui puisse être très utile pour aider cette entreprise à se retrouver?
Ok, merci. Je ne suis pas à Badolité, je suis à Guémena.
Vous êtes à Guémena, dans la province de l'Équateur.
Hein? Ok.
On vous écoute.
Bon, mon souci est que la société soit privatisée dans le sens que notre population, presque 95% voyage au bord des bateaux. Nous sommes vivants dans un pays pauvre, vous le savez très bien. Les transports coûtent cher, surtout les transports pour voyager au bord de l'avion. Il faut avoir au moins électricité, Kinshasa pour Guémena. Il faut avoir au moins 160 dollars. Mais ce qui facilite la population pour voyager, c'est les moyens de bateau. C'est pourquoi, pour moi, je demande que la société soit privatisée. La licence qui est pour qu'on puisse organiser la société et les bateaux là, on puisse réparer encore plusieurs bateaux qui se traînent là-bas aussi sur le port de l'Ouattara pour que les bateaux puissent voyager et faire voyager la population.
Voilà, merci beaucoup, Eli. La qualité de votre intervention se détériore. Mais dis-moi, vous souhaitez la privatisation, mais on a entendu, en fait, M. Michel Semo, qui est spécialiste en économie, qui a présenté la situation pour dire que dans les conditions dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui avec la situation économique faible de l'État, privatiser une entreprise, c'est encore très, très dangereux parce que c'est, on risque de ne pas voir... voilà. OK, le contrôle qu'il faut pour cette entreprise, mais dis-moi, c'est votre point de vue, vous êtes à Badolité où les auditeurs nous suivent, je crois bien, sur la fréquence des Badolité 93.0 MHz au centre du pays, c'est à Kananga. Avant d'aller prendre notre invité, les flashs d'information, Théo, vous êtes à Kananga, Gassou Occidental, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, c'est Théo Chamba, parti de Kananga.
Voilà, il paraît que vous élaborez un travail de fin d'étude sur l'Office national de transport. On a tracé ça, Théo?
Oui, je l'ai fait depuis l'année passée.
Ah voilà, c'est depuis l'année passée. Quelles ont été les pistes de solutions que vous aviez dégagées dans votre travail de fin de cycle pour la relance de l'ONATRA, Théo?
Voilà, moi j'ai pensé dans mon travail, il faut d'abord que l'État, le gouvernement congolais puisse suivre de près l'évolution des activités de l'Office national des transports, qui est l'un des poumons économiques de notre pays, en octroyant des moyens de son fonctionnement et aussi des matériels de transport. En plus de ça, il faut que l'État puisse d'abord mettre fin à la réhabilitation de la Jicambi. Comme ça, quand cette dernière va lancer ses murets sur la voie nationale en passant par la SNCC, je pense que le trafic au sein de l'ONATRA sera plus régulier comme ça se faisait autrefois. Et en fait, j'ai pensé aussi qu'il faut que l'État puisse retraiter un grand nombre de personnels de l'ONATRA parce que j'ai découvert qu'à l'ONATRA, une majorité du personnel est déjà à l'âge des retraites. Comme ça, on laisse la place aux nouvelles unités pour la promotion des flairant de l'économie congolaise qui est presque à genoux. Je pense que c'est
voilà,
ça merci. Des propositions.
Merci beaucoup Théo, vous êtes à Kananga. On prend aussi Cléophas qui est en Boujimaï, c'est pas loin de Kananga. Il va aussi avoir le temps dans deux minutes de donner son point de vue. Nous allons prendre notre invité juste après Cléophas de Boujimaï et on pourra suivre les bulletins d'information. Cléophas, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes en Boujimaï au Kasaï oriental, vous avez suivi le compatriote qui est à Kananga, non, l'un des Boujimaï. On vous écoute, quelle est votre proposition?
Oui, ma proposition, selon notre thème du jour, pour relancer l'ONATRA, moi je vois, premièrement, on va appliquer la politique des cadres, bien encadrer les travailleurs. Quand les travailleurs travaillent, et s'ils ne parviennent pas à avoir les rémunérations, ils vont commencer à appliquer la politique des fraudes au sein de l'entreprise. Même vous, quand vous travaillez à la radio Okapi, et qu'on vous paye, on ne vous paye pas, vous verrez que vous allez commencer à appliquer d'autres choses qui ne sont pas réelles. C'est pour cela qu'il faut qu'on puisse appliquer. Ici, au Congo, il y a une maladie, je ne sais pas si c'est quoi. Les travailleurs ne sont pas payés partout. Toutes les entreprises sont en train de souffrir à cause d'un paiement.
Okay,
et deuxièmement, je crois aussi, pour bien relancer encore, il faut faire évoluer les outils du travail. C'est-à-dire qu'il y a déjà vétusté des outils du travail, afin qu'on puisse améliorer les outils du travail, afin qu'on puisse aboutir à une bonne solution.
Merci Cléophas. Vous êtes en Boujimaï, au Kasaï oriental. Et là, les auditeurs d'Mboujimaï nous suivent sur 93.8 MHz. On rentre ici à Kinshasa avec notre analyste économique qui est en ligne, M. Michel Somoué. Vous avez suivi sur tous les points de vue des syndicalistes, ceux qui sont au sein de l'entreprise. Ils ont relevé presque les mêmes problèmes que nous avons relevés depuis le début de cette émission. On s'est rendu compte qu'avec la libéralisation des trafics de l'exploitation sur le fleuve, cela n'a pas permis à l'ONATRA de se mettre dans une concurrence réelle avec ces entreprises privées qui ont commencé à exploiter la voie fluviale. Et aujourd'hui, on voit quand même qu'avec le nouveau comité de gestion, il y a la réhabilitation des bateaux. Déjà, il parle des 12 bateaux. On est déjà presque 5 ou 8 bateaux qui sont réhabilités. On voudrait qu'avec cela, qu'on puisse quand même remettre l'entreprise en confiance. Mais ces comités de gestion commencent ces projets, mais c'est d'une manière transitoire et que demain, on puisse avoir un comité définitif qui puisse fonctionner. Est-ce que vous pensez que cela peut aussi casser l'élan du travail déjà amorcé par ceux qui sont en train de le faire maintenant, M. Michel Somoué?
Moi, je crois qu'il faut motiver le Congolais à quelque niveau qu'il se trouve
et le remettre en confiance. Il faut que le Congolais prenne, il faut aider d'abord le Congolais à faire confiance en lui-même. S'il y a un comité de gestion aujourd'hui qui a pu ainsi faire montrer des efforts concrets que les Espagnols récemment n'ont pas pu réaliser, moi je pense qu'il faut suffisamment les motiver. Mais j'apprécie l'intervention des syndicalistes, surtout que nous sommes dans une économie dit-on. Parce que ce qu'on dit, nous sommes un système d'économie sociale du marché, qui est en fait une variante de la vision de Karl Marx. Mais Karl Marx, en concevant ce genre de système, a supposé qu'il faudrait au préalable qu'il y ait un syndicat fort pour qu'une économie sociale du marché fonctionne correctement. À la place d'un État puissant, il faut un syndicat fort. Il faut un syndicalisme fort et puissant, responsable, visionnaire, bien moralisé, et qui soit capable de contrer les assauts corrupteurs des faiseurs, des ministres, des faiseurs, des gestionnaires d'entreprises et autres. Ça, c'est le rôle du syndicat est capital. Et Lambert a bien fait de le mentionner, de dire que malheureusement, nos syndicats sont généralement infestés. Des espèces corrompues et corruptibles trop facilement. Mais quand on parle, par exemple, de la modernisation de la flotte qui est en train de se faire déjà avec le comité de gestion en place aujourd'hui, c'est qu'il y a un effort à encourager. Mais il faudrait qu'on pense en même temps, comme l'a dit Patrice Kananga, qu'il faut penser à l'activité économique elle-même, parce que l'Onatra étant une entreprise de transport, il faut qu'il y ait de la marchandise à transporter. Je pense que Louis-Serge l'a dit, il y a des grues, il y a des ports, il y a ceci, de qui sont abandonnés. Pour abandonner pourquoi ? Ce n'est pas seulement, c'est pas qu'on a forcément besoin. Les grues sont le matériel dont il faut avoir, dont il faut assurer l'exploitation, mais il faut qu'il y ait de la marchandise pour que le train travaille correctement. Donc il faut relancer la production nationale pour que la marchandise fonctionne. La Gécamine, dont tu as parlé tout à l'heure,
Théo de Kananga, oui.
Celui de Jean-Baptiste de Kananga qui a parlé de la Gécamine, c'est parce que la Gécamine était pratiquement la seule entreprise qui donnait du travail à la SNCC. Pourquoi ? Parce que c'est un système colonial qui avait été ainsi conçu pour faciliter l'extraversion de l'économie nationale. Le cuivre, le cobalt n'étant pas des produits à consommer à l'intérieur du pays, il fallait un système de transport pour évacuer ces produits de Lubumbashi ou de Kolwezi jusqu'à Matadi, prendre le chemin de l'étranger. Mais il faudrait qu'on repense le système économique national pour qu'on repense même le système de transport avec. À partir du moment où la production du manioc n'est pas encore rentrée dans les priorités du gouvernement, il n'y a aucune grande ferme de plantation de manioc, et le produit le plus consommé dans ce pays, qui devrait motiver l'activité de transport et envisager la possibilité de revoir le système et de retracer même la carte géographique. Je disais qu'il faut reconstruire, il faut construire, même pas reconstruire, il faut construire une économie nationale. Construire l'économie nationale comprend le tracé d'une géographie de transport viable, qui tienne compte des besoins, la définition des besoins fondamentaux de l'économie nationale. De quoi avons-nous besoin ? Quel pays sommes-nous ? Quel peuple sommes-nous ? Quelle culture est la nôtre ? À partir de notre culture, on peut comprendre quelles sont nos priorités en matière de consommation, en matière de production, et bâtir un système qui permettrait à l'ONATRA de redéfinir sa mission, son rôle, sa vision, et même ses trajectoires dans le système de transport. C'est très important. Voilà. Et de redéfinir aussi le matériel dont elle a vraiment besoin pour être efficace et répondre effectivement aux besoins de l'économie nationale.
Voilà. Permettons à Séraphin, qui est à Ouvira, d'intervenir, et Tibassi, non, qui nous appelle de la province orientale. Séraphin, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, Toto Pierre et la Mèche.
Voilà, on vous écoute, Séraphin.
Oui, moi je pense que toute entreprise doit d'abord promouvoir un rendement meilleur. Lorsqu'on veut promouvoir un rendement meilleur, on va aussi faire varier les facteurs de production. Et les facteurs de production que je voudrais peut-être faire allusion, c'est le facteur le capital technique et le travail. Et si j'évoque aujourd'hui le capital technique, là je fais allusion à l'investissement de remplacement, qui est destiné au remplacement des équipements usines. Aujourd'hui, l'ONATRA n'a plus d'équipements qui sont en bonne forme. Donc, tous les équipements de l'ONATRA aujourd'hui est devenu usé. Il faudrait aussi qu'il y ait un remplacement des équipements qui sont déjà usés pour permettre à cette entreprise d'accroître la production. Je voudrais encore évoquer sur l'investissement des capacités. Dans l'investissement des capacités, je vois en termes d'accroître la capacité de production de cette entreprise. Parce que si une fois cette entreprise fait allusion à cet investissement des capacités, elle parviendra quand même à accroître sa production.
Mmh.
Et je voudrais aussi parler du facteur travail. Dans le facteur travail, là, je fais allusion peut-être à la quantité, même à la qualité du personnel. Parce que si je parle de la qualité du personnel, aujourd'hui, les mal qui ont nos entreprises publiques aujourd'hui, c'est le problème de la qualité. Il n'y a pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mmh. Donc, les gens qui échappent à certaines entreprises sont pris par connaissance soit de népotisme, soit de tribalisme, parce qu'il est prêt à tel ADG, il est prêt à tel ministre.
Voilà.
Qui ont aujourd'hui nos entreprises et qui permettent à ce que nos entreprises soient en faillite.
Merci, Séraphin.
Que les deux facteurs soient pris en compte pour que cette entreprise ait un rendement meilleur.
Merci, Séraphin. Le dernier auditeur, c'est Thibaut Simon. Vous êtes en province orientale. Bonjour. Thibaut Simon, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, le temps que la réalisation puisse récupérer Thibaut Simon, on revient à vous, monsieur Michel Somoué, parce que nous tendons déjà là vers, comme on dit, la dernière ligne droite et la fin de cette émission. Nous avons suivi les uns et les autres depuis le début de l'émission. On a proposé beaucoup de choses. On a pensé aussi, comme on l'avait fait avec la MIBA, comme on l'a fait avec la SNCC, mais dans les conditions où les études de stabilisation des entreprises se font sur ces fonds déjà sur fond des divergences, que ce soit entre le COPIREP, le gouvernement, les syndicalistes. Et est-ce que dans ces conditions, vraiment, on peut espérer un résultat positif pour la relance de l'ONATRA? Voilà, on vient de perdre là les intervenants qui étaient sur la ligne. Le temps que la réalisation relance notre invité, monsieur Michel Somoué, pour la clôture de cette émission qui s'est penchée aujourd'hui sur l'ONATRA. Comme je l'avais dit à l'introduction, l'entreprise du portefeuille de l'État qui connaît assez des difficultés de fonctionnement à l'instar des autres entreprises. Vous vous rappellerez que depuis depuis 2008, un contrat de gestion a été signé entre le gouvernement congolais par les biais des COPIREP avec une firme espagnole, Progosa, pour la gestion des stabilisations de l'ONATRA. Mais il s'avère que deux ans après, il est difficile de renouveler ces contrats parce qu'on juge que l'évaluation qui a été faite ne permet pas assez que l'ONATRA soit redressée dans ces conditions. Mais les uns pensent qu'aujourd'hui, il faudrait insuffler des ressources financières pour et sauver l'entreprise. Pour terminer, monsieur Michel Somoué, j'étais en train de vous poser la question qui est celle de savoir que dans les conditions où on est en train de voir les travaux de stabilisation, les études de stabilisation qui se font des fois sur fond des divergences entre que ce soit les syndicalistes et de l'ONATRA, que ce soit les comités de gestion, les COPIREP, le gouvernement, mais dans ces conditions où on ne semble pas avoir les mêmes objectifs et parler le même langage, comment enfin on peut redresser l'ONATRA dans ces conditions-là?
C'est une question très pertinente, mais c'est tellement très complexe, parce que dans un climat de conflit, en réalité, il s'agit de conflit d'intérêts. Les syndicalistes ont une vision totalement différente de ce que le pouvoir a en matière d'organisation de l'ONATRA. Les intérêts de ceux qui veulent restructurer l'ONATRA et qui montent des plans de redressement, de stabilisation divers sont totalement divergents de ceux des syndicalistes,
mm-hmm.
et même d'ailleurs de ceux du, pour être plus clair, du personnel de l'ONATRA. Ça, ce sont des choses qui sont évidentes. Mais je pense que tout cela, la solution est simple. La solution, c'est l'État congolais qui est l'État propriétaire.
Mmh.
Moi, jusqu'à preuve du contraire, je persiste à croire que notre système économique a besoin pour l'instant du dirigisme économique. Il nous faut l'intervention de l'État. C'est important. Il nous faut des entreprises publiques. C'est important. Parce que le pouvoir, quand je dis que l'État congolais est encore trop faible, c'est-à-dire simplement, il est encore tellement corrompu qu'on ne peut pas laisser des privés s'occuper de l'activité économique, ça sera la jungle la plus totale.
Mmh, voilà.
La plus totale. Il faut revoir l'État.
Michel Somoué, permettez que... Ok. Michel Somoué, permettez que le dernier auditeur, Serge Kieta Goma, c'est le tout dernier, il a juste deux minutes pour donner son point de vue. On revient à vous enfin pour clôturer cette émission et donner votre, en principe, donner votre conclusion. Serge, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour. Alors, c'est bel et bien Serge Farini à partir de Goma. Il faut dire d'entrée de jeu que dans la gestion des différents services publics, il existe certains modes dont la régie, l'établissement public selon qu'il est industriel, commercial ou administratif, et la concession de services publics notamment. À mon avis, il faut que l'État subventionne l'ONATRA, mais je doute fort de la volonté
de l'État de subventionner.
de gérer l'ONATRA par concession de services publics.
Serge, vous êtes en ligne?
Ah oui, je suis en ligne.
Oui, terminez votre propos parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous avez juste là 30 secondes pour terminer votre intervention.
Ok, merci. Je disais que, à mon avis, il faut que l'État subventionne l'ONATRA. Mais je doute fort de la volonté étatique, d'où la nécessité de gérer l'ONATRA par concession des services publics, comme parmi les modes de autres modes de gestion d'un service public, à côté bien sûr de l'établissement public. C'est ça un peu la solution. Il faut subventionner l'ONATRA.
Voilà, merci Serge. Vous êtes à Goma, au Nord Kivu, où les auditeurs des Radio Capi nous écoutent sur 105.2 MHz. On rentre ici à Kinshasa, vous êtes sur 103.5 avec Michel Somoué, analyste économique. Nous avons parlé de l'ONATRA, on a suivi les uns et les autres. Et là, nous vous donnons la parole pour la conclusion de cette émission dans 2 minutes et demie.
En conclusion, monsieur le journaliste, l'État l'ONATRA n'a besoin ni de subventions de l'État, ni de ce plan de stabilisation basé sur l'apport de capitaux frais étrangers. L'ONATRA a besoin que l'État soit responsable et qu'il lui paye ce qu'il lui doit. L'État doit 400 millions, et j'ai entendu à l'ONATRA, avec les 400 millions qui constituent une créance vraie, que l'État doit à l'ONATRA, l'ONATRA est capable de se remettre debout, de se moderniser, de se restructurer viablement. Je ne vois pas de capitaux étrangers, ce qui vient chercher dans cette histoire, en faveur d'une entreprise qui a ses créances, qui a ses actifs. Et notamment parmi les actifs, cette créance sur l'État de 400 millions. Demandez à l'État de payer l'entrée ce qu'il lui donne, parce que l'État est capable de payer la dette extérieure à raison de 50 à 60 millions par mois. Et qui paye l'entrée, qui paye la SNCC, qui paye la SNA, il peut le faire s'il a un peu de volonté politique.
Voilà, et pour revenir et remonter à ce que vous avez dit aussi, d'un côté, il faut la moralisation, n'est-ce pas, de la gestion, que ça soit même au sein de l'ONATRA, si jamais on doit restructurer, mettre un comité de gestion, il faut aussi un travail de moralisation de la gestion.
C'est déjà un bon signe de moralité que quelqu'un honore ses engagements. Un État responsable, un État moral, est celui qui respecte ses engagements, qui sait que je dois payer la dette d'autrui. C'est un signe de moralité, ne pas le faire, c'est de la délinquance.
Voilà, merci beaucoup monsieur Michel Somoué, vous êtes analyste économique dans cette émission Parole aux auditeurs. Merci surtout de nous avoir accordé de votre temps pendant plus d'une heure ensemble avec les auditeurs des Radio Capi pour analyser ces sujets autour de la relance de l'ONATRA. Nous disons aussi merci aux auditeurs. Ils étaient très nombreux aujourd'hui à vouloir réagir, surtout les syndicalistes de l'ONATRA qui nous ont pris en cours de l'émission, qui sont intervenus pour donner assez d'éléments, et tous les autres auditeurs qui nous ont suivis, que ce soit sur www.radiocapi.net et ceux-là qui nous ont suivis en FM. Nous vous disons tous merci. Aussi, on s'excuse auprès de ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion d'être alignés sur les antennes.
Allô? Mais ils ne répondent pas?
On ne saura répondre parce qu'on est à la fin des paroles aux auditeurs. On va se retrouver demain jeudi à 11h03. Nous disons merci à Cynthia Bachizi qui a réalisé cette émission de Mes Maîtres sous la supervision de Nicole Ngaka, la mise en onde assurée par Jean-Claude Insiala. Vous pouvez la retrouver sur www.radiocapi.net, mais aussi n'oubliez pas la rediffusion à 20h, heure de Kinshasa, 21h au centre et à l'est du pays.